Nous sommes mercredi 21 février 2018 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
J'aime la pêche, bonsoir.
Mecton qui remplit toujours les défis que lui donnent ses collègues quand il est en direct. Et là, c'est un défi, je dis n'importe quoi avant chaque phrase. Ça marche très bien. J'ai du poisson dans ma poche, voici le programme du jour. Nous allons donc parler d'un jeu très rigolo qui est Illusion of Time. Alors, Illusion of Gaia dans les pays anglo-saxons.
Et enfin, même aux États-Unis, en fait. Au Japon aussi.
Et au Japon, c'est Gaia Genzoku, qui veut pas tout à fait dire Illusion of Gaia. Bon, j'expliquerai après, la traduction est un petit peu...
C'est déjà le bordel,
mais ce jeu est un vrai bordel de traduction, donc on va y revenir de toute façon. Mais avant cela, nous allons faire notre traditionnel tour de table de l'actualité. Je vais laisser Monsieur Antix commencer, puisqu'il avait été zappé la semaine dernière, et il nous a rappelé avec force conviction que c'était son tour.
Ouais, mais voilà. C'est pas plus mal, parce
tour
que... Tour. Quel bâtard. Mais c'est pas plus mal parce que du coup j'ai pu finir le bouquin dont j'allais parler. Et donc je me suis lancé il y a une dizaine de jours dans la lecture de La Légende de Dragon Quest, donc, qui a été publié chez Third Edition, un éditeur spécialisé dans tout ce qui est bouquin sur le jeu vidéo. Et qui ont d'ailleurs fait des bouquins pour à peu près tous les Final Fantasy existants, je crois, à l'heure actuelle. Et donc là, c'est un bouquin qui va retracer donc l'aventure Dragon Quest, mais d'un point de vue culturel. Plus que en détaillant les jeux, c'est-à-dire que en gros quelle a été l'influence des différents jeux sur le Japon, notamment la trilogie d'origine. Elle t'explique aussi un petit peu à quel point certains aspects de la série, comme le sort de résurrection, qui est en fait le mot de passe qui sert à reprendre sa partie dans le premier, est devenu une phrase culte au Japon, enfin vraiment un élément culte. Et tout ces tas de petites choses, bah aussi les différents créateurs, que ce soit donc Ori, Yuji Ori, le créateur de Dragon Quest, Akira Toriyama, qui passe rapidement dessus, ou le compositeur Sugiyama. Il y a pas mal de petits trucs à apprendre dessus, et c'est rédigé par Daniel Andreyev. Pour ceux qui vont sur GameCube, qui connaissent bien GameCult, c'est Kamui Robotics dans Gaijin Dash.
Et, oui, d'accord. Oui, donc c'est le gars qui s'y connaît un peu, quoi.
Le gars s'y connaît, tu sens que c'est un super passionné du jeu. D'ailleurs, l'introduction, il t'explique comment il a connu Dragon Quest. Et il a vraiment fait quasi tous les épisodes. Il a rencontré le Yuji Ori, le créateur. Et tu sens que c'est quelque chose qui, personnellement, lui fait très plaisir. Dragon Quest, c'est quelque chose qu'il adore. Et il adore en parler. Ça se lit vraiment tout seul, ça. C'est super facile à lire, c'est très agréable, je trouve ça vraiment bien écrit. Et c'est super intéressant parce que c'est quand même une saga qu'en Europe on connaît pas tant que ça. Même si elle commence à avoir son petit succès, mais qui vraiment au Japon est un monument au niveau de Star Wars. C'est un truc qui se vend aussi bien que Mario, voire mieux, tu vois.
Oui, au Japon c'est pratiquement... Enfin, tu parlais de phénomène culturel, mais c'est ça, je pensais qu'au départ tu disais la culture qui a inspiré le jeu, mais en fait c'est exactement l'inverse, c'est le jeu qui a inspiré la culture. Ah,
ceci dit, ça parle un petit peu aussi des inspirations, mais c'est un petit peu plus bref. Globalement, hein, en termes de jeu, c'est surtout Wizardry et Ultima qui ont été l'inspiration principale pour les mécanismes de Dragon Quest, on va dire.
D'accord, mais ça c'était connu, puisque Dragon Quest c'est une espèce d'adaptation du RPG occidental à la sauce japonaise, qui est devenu le JRPG, qui a finalement été réimporté aux États-Unis, qui est redevenu du RPG. Enfin bref, si ça vous intéresse, il y a The Gaming Historian, que vous connaissez peut-être, qui est un monsieur qui a une chaîne YouTube sur laquelle il explique ce genre de choses-là, et qui a fait une rétrospective sur le jeu de rôle dans le jeu vidéo, qui était super intéressant. Alors ça dure une heure et demie et c'est tout en anglais, donc faut quand même s'accrocher, mais il me semble qu'il y a des sous-titres français disponibles. Si vous avez une heure et demie à tuer, je vous conseille de le regarder, parce qu'il parle énormément de Dragon Quest aussi, de l'influence qu'il a eue sur certains jeux occidentaux, et inversement, c'est-à-dire de l'influence que certains jeux occidentaux ont eu sur Dragon Quest. C'est très rigolo de voir cette espèce de consanguinité entre tous ces créateurs qui finalement se sont inspirés les uns les autres pour arriver à faire avancer ce genre précis. Mais voilà, ouais, bref, surtout revenons sur le bouquin.
Ouais. Et voilà, ça coûte une 25 euros, c'est achetable directement sur la boutique en ligne de l'éditeur, et si vous avez de la chance, vous pouvez le trouver à la Fnac, ou moi je l'avais trouvé dans un album dans le centre de Paris, du côté de la Sorbonne. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça, je crois que ça va faire 200 pages, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai terminé tout à l'heure. C'est super intéressant si vous êtes intéressé par les JRPG, Dragon Quest en général.
D'accord.
Voilà. Et
D'accord.
pour finir sur la partie histoire, je vais rajouter un petit truc. Je vous recommande de regarder sur Arte la série Creed, qui du coup ne parle pas de l'histoire d'un jeu, mais de l'histoire dans les jeux. L'histoire avec un grand H, qui est
Par
fait
Nota Bene?
par Nota Bene. C'est 10 épisodes de 5 à 10 minutes grand maximum à chaque fois. Et c'est très intéressant pour voir comment l'histoire est traitée dans le jeu vidéo, quelle vertu pédagogique, quelle vertu de propagande et compagnie.
Tu écris ça comment?
Creed, comme dans Assassin's Creed.
D'accord.
D'ailleurs,
comme dans Balboa.
J'en profite, il y a JV le Mag qui avait fait aussi une petite rétrospective sur l'histoire dans le jeu vidéo. C'est le numéro du mois de décembre 2017, si je dis pas de bêtises. Ou novembre 2017.
Super magazine.
Super magazine fait rédigé par des gens bien. Abonnez-vous, filez-leur de la thune, jetez-leur vos petites culottes usagées. Vraiment, enfin, ils ont fait un très bon dossier là-dessus aussi. Donc, si vous êtes intéressé par le traitement de l'histoire dans le jeu vidéo, de l'histoire effectivement avec un grand H, ça peut être une source complémentaire à cette petite chose que je n'ai pas vue. Hein. Donc, voilà. Non, Mecton, tu ne fais pas ça. S'il te plaît. Cette émission était partie pour être sérieuse. On était bien là.
Ça change.
On était bien. je vais à mon tour faire un petit peu d'actualité avant de laisser la parole à Mecton qui va avoir un sujet un tout petit peu plus long. Il y a eu deux mises à jour de deux jeux intéressants qui étaient sortis l'année dernière. Donc d'abord, il y a une mise à jour de Doom. qui améliore
Sérieux
la résolution,
mon cul, ouais.
Améliore un peu le framerate, un tout petit peu, hein, c'est pas flagrant, mais améliore la résolution, ça se voit bien, et rajoute surtout les contrôles au gyroscope que tout le monde attendait. Donc si vous êtes des acharnés, voilà, si vous êtes des acharnés de Splatoon, vous pouvez activer les contrôles au gyroscope, vous mettez la sensibilité à peu près 65%, moi j'ai mis entre 65 et 70, 65 je trouvais que c'était confort, 70 c'était peut-être un tout petit peu beaucoup, et vous allez retrouver des sensations extrêmement similaires aux contrôles qu'on a dans Splatoon, et c'est super agréable parce que pour pouvoir faire des micro-ajustements, c'est-à-dire que vous vous dirigez vers un ennemi, il faut viser la tête, vous levez très légèrement la manette, boum, ça y est, c'est le headshot garanti. C'est super agréable à utiliser, ça marche très très bien. Et je tiens à à lever mon chapeau à Panic Button qui fait un très bon suivi du jeu, ça a mis du temps à arriver comme patch. Mais voilà, je pense qu'il mérite des applaudissements, je pense qu'il mérite un coup de chapeau, il n'y a rien d'autre à dire pour avoir fait un très bon suivi. Doom sur Switch était déjà un petit exploit technique parce qu'il fallait quand même... Enfin, il y a un jeu qui a des grosses couilles, fallait le faire rentrer dans une petite tablette, c'était pas évident. Mais les mecs ont encore réussi à améliorer le truc, c'est-à-dire qu'ils ont pas juste corrigé les bugs, ils se sont dit « Oh putain, vas-y, on peut booster le framerate, oh, rien à foutre, on le fait !» Je trouve ça assez exceptionnel, c'est vraiment la célébration de tout ce qui est absolument pas nécessaire, beaucoup, beaucoup trop ambitieux, ils y sont. Les mecs y sont, ils y croient, et ça fait quand même très plaisir.
C'est eux qui sont sur Wolfenstein ?
C'est eux qui sont sur Wolfenstein 2,
ça sent bon.
The New Colossus, et je pense que ça va être très bon. Et à mon avis, les améliorations qu'on a sur Doom, puisque c'est le même moteur entre les deux, on va en bénéficier sur Wolfenstein 2. Donc je pense que c'est parce qu'ils sont en train de...
sur Wolfenstein d'ailleurs.
Exactement, c'est parce qu'ils sont à mon avis en train de peaufiner Wolfenstein qu'ils ont pu backporter quelques-unes des améliorations sur Doom. Et c'est aussi eux qui ont fait Rocket League sur Switch, qui marche très bien aussi.
Oui,
même s'il est un peu moche.
Il est un petit peu moche, la résolution est un petit peu basse, mais en fait quand tu joues quand t'es tout seul ça va, c'est quand tu joues à deux où tu sens vraiment que la résolution est très très faible.
Ouais, voilà.
Et le framerate pas constant, mais quand t'es tout seul, ça tient du 60 images secondes, et en mode portable, ça passe très bien. En mode dock, tu sens effectivement de temps en temps que la résolution baisse beaucoup. Mais
coup, pareil,
c'est parfaitement jouable.
Ce sur Rocket League, ils ont prévu de faire un petit patch avec deux modes de rendu.
Tout à fait.
Genre un mode tout fluide et un peu plus dégueu, et un mode moins fluide et très joli.
Ils ont prévu de faire un truc où le framerate serait pas à 60, c'est-à-dire framerate variable, mais qui serait à, je crois, résolution constante avec des textures un tout petit peu bumpées. Et un mode où, effectivement, c'est framerate 60 garanti, comme ce qu'on a aujourd'hui, en fait. Mais où la résolution serait peut-être un peu mieux.
Ce genre de choix entre résolution et fluidité, c'est des trucs qui arrivent de plus en plus souvent, je trouve.
Oui, sur notamment depuis la sortie de la PS4 Pro et de la Xbox One X, t'as plein de jeux où tu as effectivement un mode joli, et un mode rapide. Et c'est le cas, je crois que c'est Dynasty Warriors 8, 9, 10, 11, 12, je sais plus.
Qui n'est ni rapide ni joli.
Qui n'est ni rapide ni joli, mais qui te propose un mode performance et un mode joli.
Diaporama.
Et en fait, Fire Emblem Warriors faisait la même chose. Il y avait un mode
Il y avait un mode rapide, enfin un mode 60 c'est... images par seconde, 720p, et je sais plus combien
c'est,
de p.
C'est 1080p, 30 images par seconde. Ouais. En fait, ils appelaient ça, c'est le mode graphisme et le mode performance, je crois, un truc comme ça.
C'est un truc, en fait, Koei Tecmo, dans quasiment tous leurs jeux, depuis Nioh sur PS4, ils mettent, hein. Et je parle de la PS4 normale, hein. Ils avaient déjà proposé le mode fluidité dans Nioh.
Enfin, ce qui est pas forcément, ce qui est plutôt une, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est intéressant de laisser aux joueurs console le choix de du truc, sachant que si les deux modes sont correctement réalisés, on a effectivement ce pourquoi on a payé, ce qu'on a choisi. T'as choisi performance, bah t'as du 60 images secondes, mais la résolution est un peu moins bonne, les textures un peu moins bonnes. Et si t'as choisi d'avoir une belle résolution et une jolie image, le framerate prend un petit coup. C'est pas idiot, je trouve. Enfin bon. Voilà. La deuxième petite mise à jour importante, c'est celle de Rime. Alors autant Doom enlève des gigas, c'est-à-dire c'est pareil, c'est la mise à jour. La mise à jour Day One de Doom faisait 9,3 gigas. Quand tu appliques la nouvelle mise à jour, ça passe à 8 gigas.
C'est ouf ça.
Les gars, vous me donnez encore plus envie de voilà. Enfin, je vais en mettre partout quoi. Vous êtes trop balèze. Rime, c'est le contraire. Hein. C'est la première mise à jour, c'est 200 mégas. Là, ça fait 2 gigas. Donc voilà, paye ton jeu. Et Rime, en fait, ça améliore énormément la qualité d'image. Alors, la résolution n'est pas forcément boostée, mais les textures sont de bien meilleure qualité, sont bien mieux traitées, les ombres sont vraiment de meilleure qualité, et il y a quand même nettement moins de problèmes de framerate. Le jeu fait une espèce de chargement continu, et en fait, chaque fois qu'il y a un chargement d'une nouvelle zone quand on est en train de marcher, le truc ramait à mort, enfin, ça passait en mode diaporama, c'était atroce. Là, c'est un peu moins le cas. C'est pas fluide quand même, hein.
Mais jouable. Ça,
mais c'est disons que le problème c'est pas le jouable parce que t'es dans une zone en fait où il se passe rien.
D'accord.
C'est une zone de transition. C'est pour éviter d'avoir un temps de chargement. Limite j'aurais préféré qu'il y ait un temps de chargement brutal. Là le fait que ça passe en mode diapo ça cassait un peu l'immersion.
Ouais.
Là c'est un peu moins vrai. Tu sens qu'effectivement c'est pas fluide mais ça passe un peu plus. Voilà. Et la troisième petite chose, bon, je suis désolé, je suis un petit peu long mais voilà. Ubisoft a déclaré concernant Rainbow Six Siege auquel vous jouez tous.
J'ai fait une démo d'un week-end un jour avec des copains, voilà. C'était sympa pour un week-end.
C'est ça, donc Rainbow Six Siege, Ubisoft a déclaré, mais dans 10 ans, on y joue encore à ce jeu.
Bah peut-être, hein, ils sont peut-être 5.
Alors Ubisoft, non. Tout le monde s'en bat les couilles. Faut quand même, voilà, tout le monde s'en branle. Bref, Rainbow Six tabouret seul, oui d'accord. Merci Mecton. Je laisse la place à Mecton qui a testé Nintendo Collabo.
Ah, j'ai rien testé du tout, j'ai regardé les vidéos qui sont tombées sur le net.
C'est nul, je pensais que c'était du journalisme total.
Non, je suis un testeur de l'extrême, je regarde des vidéos, ça me suffit.
Tu regardes le speedrun et ensuite tu critiques le jeu.
C'est ça. Comment on va faire
le jeu très
suite,
court, hein. Il y a beaucoup de bugs aussi. Hein.
C'est vrai. Puis sur les screenshots, ça a l'air de ramer, c'est un truc de dingue. Bref, bon, donc on a eu, avez-vous entendu parler de ce complot mondial des chats déguisé en une idée géniale de Nintendo?
Ah, le carton, oui, on a
ouais. Bon, du coup, donc il y a des vidéos de présentation un petit peu plus longues que le reveal qu'on avait vu. Donc, découpées en deux, quoi. Une pour le kit 1, une pour le kit 2. Donc, le kit 1, c'est celui où il y a 5 Toy-Con à l'intérieur. Et bah, la surprise, c'est que les mini-jeux qui accompagnent tout ça sont peut-être finalement pas si mini que ce qu'on pensait. Donc on a...
Il y aurait plus de contenu que ce qu'on imaginait. C'est pas juste pour tester le jouet qu'on a monté.
C'est ça. Donc typiquement, la vidéo commence par un gros focus sur l'utilisation de du capteur infrarouge qui est dans le Joy-Con de je ne sais plus.
Droit.
Merci. Putain, vous êtes beau.
C'est le rouge.
Puis il est bleu chez moi.
Ah, il est gris chez moi.
Alors, non, c'est le rouge parce que vous n'avez pas pris la bonne couleur. Hein.
Alors, si vous avez acheté la console d'origine, c'est le rouge, celle qui est bleue et rouge. Si vous avez acheté une paire de Joy-Con supplémentaires, c'est le bleu, ce qui est extrêmement agaçant.
Nom de Dieu, ouais, c'est
et
ça.
Si vous avez pris si vous avez pris la version HD poubelle, c'est la version, c'est le gris.
Et si vous avez la version Arms, c'est le jaune fluo.
Et
si vous avez la version Splatoon, alors ça peut être le vert fluo ou le rose fluo parce qu'il y a eu les deux sets. Et c'est là que je me dis qu'il faut que j'arrête mon obsession de collectionner des manettes, sinon je vais me ruiner.
On va crever. Bah, t'as encore les amiibo, hein. Eh, t'as, vous êtes en train de niquer ma news des fois, là.
Non, un petit peu.
C'est ce qu'on est en train de faire.
Bon, alors, la caméra, à quoi elle sert? Dans le petit jeu de pêche, alors, il propose gentiment de découper des poissons dans du papier et puis de les scanner pour pouvoir les pêcher après. On sait tous comment ça va finir, hein,
On va scanner notre bite.
Mais et voilà.
On va la pêcher après.
Quel que soit l'outil de création, il servira forcément à faire une bite. Donc c'est ça, voilà. C'était la partie petite voiture, petite canne à pêche. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la maison. Donc la maison, finalement, c'est une sorte de Tamagotchi avec lequel on a plein d'interactions rigolotes en insérant des trucs...
Non.
En insérant des trucs dedans ?
Avec des enfants aussi.
Je rappelle que cette émission est tout public.
Merde. Ah oh, putain, je vais avoir des problèmes.
Problèmes.
Plein de petites interactions et du coup des mini-jeux avec la créature qui vit à l'intérieur de la maison.
Comme Mitomo ?
Et voilà. Donc on revient à ce genre de petites conneries et tu verras, ça va revenir encore. Donc sur la moto, le scan sert à faire son propre circuit. Donc on aura des circuits en forme de... Voilà, vous avez deviné.
Ok.
Demain.
Ouais, demain. Les contrôles ont l'air vachement cool par contre. Donc les gaz sont sur la poignée de droite. Tout se contrôle en penchant la moto. Ils sont allés jusqu'à faire une petite connerie où tu te braques, bah, tu fais une roue arrière dans le jeu. Et petit focus sur un petit éditeur de circuit qui a l'air sympatoche. Pour le coup, j'aimerais bien qu'il y ait genre un petit multi dans le truc, ça pourrait être sympa. Petit multi online, tranquille. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans le kit ? Un piano, ouais, alors le piano. Dans le reveal, on voyait juste le piano classique tout con. Finalement, le truc est un peu plus complexe que ça.
Il y a un accordéon, une trompette, une batterie. Voilà.
Il y a un merdier pour changer les sons.
Genre Wii Music en mieux.
Et ben, il y a un mode Wii Music, voilà. Il y a un mode Wii Music où donc t'as un petit studio d'enregistrement avec plein d'effets rigolol. Et du coup, ouais, un mode Wii Music où tu peux piloter ton enregistrement en secouant ta baguette de chef d'orchestre. Les petits trucs rigolos. Si l'éditeur de son te plaît pas, a priori, tu peux découper une sorte d'onde dans du papier. Tu la glisses dans le piano, tu la scannes et t'as créé ton propre son.
T'es sérieux ?
Ouais, y a ça.
Ah la vache !
Y a ça, c'est franchement super bien trouvé.
Et alors, du coup, si tu mets ta bite, attendez. Ça fait un son très aigu, ça me paraît normal.
Le petit mode orgue de barbarie, ça, je trouve ça génial. Tu fais ta petite carte à trous, tu la mets dans le piano et...
Non, tu te fous de ma gueule.
Non, il y a ça.
Putain, voilà, pour ce truc a les ressources illimitées.
Pour un alors, mini jeu, voilà. Je trouve ça vraiment top.
Monsieur Spencer, c'est qui le directeur de la division Xbox maintenant ? C'est plus Phil Spencer ? On va l'appeler Jean-Michel Xbox.
Ouais, Jean-Michel Molly Spencer.
Donc, monsieur Jean-Michel Xbox, monsieur Kazirai, regardez. La VR, la console la plus puissante du monde, du carton. Qui va gagner ?
Vos mères.
Voilà. Voilà, ça c'était la présentation du kit 1. Le kit 2, c'est le robot. La vidéo est beaucoup plus courte. C'est effectivement le jeu qui va avec a l'air un peu plus basique. Donc, toute une présentation des différents mouvements possibles. Finalement, la petite visière, on pensait que c'était juste de la déco. Quand on la baisse, ça active une vue FPS.
Oh putain.
C'est rigolo.
Putain, c'est tellement, en réalité, c'est tellement plus énorme et interactif que la VR. Quoi. La vérité, c'est ça, c'est que en VR, les mecs, ils sont là, genre, il faut qu'ils prennent le dildo move de Sony, puis qu'ils fassent semblant de faire un truc pour mettre. Là, tu mets ta vraie visière, paf, tu passes en vue FPS, nique ta mère.
Et bon, ouais, du coup, le jeu qui va avec, ça a juste l'air d'être un gros rampage, quoi. Un truc, tu pètes tout ce qui est autour de toi, t'as des petits défis pour débloquer des nouveaux mouvements.
Façon Blast Corp, quelque chose comme ça.
Ouais, ça a l'air un peu plus basique, quoi.
Les deux surprises. Faut que tu fasses des enfants.
Ouais. Les surprises, c'est des petites molettes que tu insères dans le backpack, là. L'espèce de sac à dos qui constitue tout le truc, en fait. Tu as des petites molettes à insérer dedans, ça te sert à tuner ton robot. Donc en gros, du coup, tu le tunes dans la vraie vie et t'as un impact en jeu. Je trouve ça très sympa. Alors tu as un petit mode, genre un test sound. Ça, je suis pas convaincu du tout parce qu'a priori, il faut mettre la console dans le sac à dos. Là, je sens des drames venir.
C'est Nintendo, c'est du solide.
Oui, ouais, je la testerai pas. Là, j'ai un peu la trouille.
C'est pas une mécanique en carton, voyons.
Ouais. Et alors, l'ultime surprise de ce truc, Mortal, ça te parlera sûrement.
Putain, j'ai pas regardé exprès. Hein, je...
Il y a un mode 1v1.
Putain.
Voilà.
Ça va être tellement énorme.
Voilà.
Je sens que c'est une source de fun, peut-être pas illimitée, mais je sens que ça va occuper pas mal de gens pendant pas mal de temps. Et quand ils disent quand ils avaient dit une surprise pour les petits, enfin pour les enfants et les grands enfants, à mon avis, papa va beaucoup plus s'amuser avec que les enfants.
Ah bah, et puis il a l'air énorme à monter le robot.
Le robot, je le trouve un peu limité. Enfin, dans ce qu'ils ont présenté, j'avais l'impression de voir Star Fox Zero.
En même temps, c'est... Oh, ouais. Comment c'est pas
non,
gentil.
Non, mais voilà, le en même temps, on sait à peu près d'où il vient, c'est Project Giant Robot, mais le premier kit, avec tous ces trucs de faire les choses soi-même, des possibilités de création, s'il y a moyen d'apporter des trucs, ça peut être vachement chouette.
Ah oui. Dans le premier kit, il y a bien, a priori, un petit éditeur pour faire tes propres conneries.
Oui, non, mais c'est ça. Et tu vois, genre le piano, si t'as un moyen d'enregistrer ce que t'as fait et de les importer sur un truc de montage, enfin, un logiciel de montage... De montage sonore ou vidéo, ça peut être assez chouette parce que du coup tu te fais tes propres samples, tes propres musiques et tu peux les mettre dans ton podcast, dans ta vidéo YouTube.
On va retrouver le principe de Mario Composer.
Le Paint, ouais.
Mais connecté à internet.
Et puis oui, il y aura effectivement la partie son de Mario Paint qui était la partie la plus intéressante du logiciel.
Sauf que ce coup-ci, on a des sons de chat. Ils ont tout compris.
Voilà. Mais en même temps, ils ont tout compris. Je rappelle qu'on a quand même en face d'un complot mondial des chats, donc c'est normal qu'ils aient son chat.
Mais oui,
ils font de la propagande.
C'est la propagande. Bon, ce fut un long tour de table de l'actualité. On va faire une petite pause musicale avant de parler d'Illusion of Time. Je vous propose d'écouter un petit morceau de la BO d'Illusion of Time, comme ça on fait pas original du tout. Ce morceau s'appelle « The Edge of Exploration ». C'est en fait le morceau de l'écran titre slash présentation. Parce qu'en fait, il y a une très 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 longue intro à ce jeu. Si tu ne touches pas à ta manette, t'allumes ta Super NES, tu touches pas à ta manette pendant 2-3 minutes, il y a une très longue présentation qui explique un peu le contexte du jeu et tout ça, et qui est vraiment intéressante. C'est cette musique-là, en fait. Ça dure un petit peu plus de 3 minutes 30. Ah, tout de suite. Et nous voilà de retour.
Doom. Oh, elle est belle.
Doom. Et on va parler donc de Illusion of Time. Donc le jeu a été fait par un studio japonais qui s'appelle Quintet. Alors Quintet ou Quintet, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Je suppose Quintet vu que c'est japonais. Qui est en fait un contractant d'Enix avant qu'il soit absorbé par Square.
Alors, d'ailleurs, Enix, à l'époque, qui en fait ne faisait aucun jeu en interne, mais vraiment aucun, il ne faisait que de l'édition, tout était développé à l'extérieur.
Exactement, Enix a toujours été une boîte d'édition, surtout à cette époque-là, mais ça a toujours été une boîte d'édition en fait.
Y compris pour Dragon Quest.
Exactement, et donc le développement du jeu c'est Quintet. Quintet était donc pas un studio first party d'Enix, c'était un contractant d'Enix, qui était responsable d'un des tout premiers jeux sortis sur Super Nintendo qui était ActRaiser. Alors ActRaiser, ça vous dit peut-être rien, mais si vous l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire. C'est super intéressant parce que c'est entre le jeu de plateforme action et le SimCity-like. C'est très 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 bizarre, mais ça marche super bien et c'est très intéressant. Et ActRaiser aborde des thèmes qu'on retrouvera dans toutes les œuvres de Quintet, notamment leur jeu suivant qui fait partie de ce que les fans appellent la trilogie Gaia. Alors je mets des gros guillemets à trilogie Gaia parce que ce ne sont pas des jeux qui sont des suites les unes des autres, ce sont juste des jeux qui ont, on va dire, des thématiques communes, certains personnages communs, certaines situations communes. Voilà, c'est plus des espèces de clins d'œil les uns aux autres, mais qui sont liés par le fait de raconter, pas forcément la même histoire, mais on va dire la même trame scénaristique générale, et en recyclant les mêmes idées, mais racontées d'une manière différente.
En fait, surtout, c'est un peu similaire à ce qu'a fait Edgar Wright avec la trilogie des Cornetto. C'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de suite commune entre les histoires, mais elles sont liées par une philosophie, des idées, donc dans le cas d'Edgar Wright, des acteurs.
Et un corps de glace.
Et des glaces, surtout. Et dans le cas de Quintet, alors je pense qu'on dit plutôt comme ça, moi. Enfin, Quintet, si vous préférez. Je vais rester sur la version française. Surtout des thématiques, parce que ça reste quand même, enfin, en tout cas, moi, du peu que j'ai joué Legend of Time, un RPG qui va aborder des thématiques un peu plus modernes, peut-être presque pas contemporaines, mais. Genre, typiquement, il y a tout un passage sur l'esclavage.
Oui, ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour un jeu qui date de 93 et qui est sorti sur Super Nintendo, console familiale par excellence. Enfin, et t'as plein d'autres trucs comme ça. T'as le thème de la religion qui est abordé énormément, le thème de la mort est abordé énormément. Donc effectivement l'esclavage. À un moment, il y a le cannibalisme. Tu tombes dans une tribu cannibale. Alors, dans la version originale, c'est une tribu cannibale, c'est officiel, ça s'appelle la tribu des cannibales. Dans la version française, c'est genre, ils crèvent de faim, donc du coup, ils en sont réduits à essayer de bouffer les mecs qui passent. Non, c'est pas vrai. Dans la version originale, ils bouffent les mecs, ils se bouffent entre eux, pas de problème.
C'est pas très vegan.
C'est... ça dépend. C'est la souffrance des animaux, les vegans. C'est bon, tu peux bouffer ton cousin, c'est autorisé.
Mais du coup, ce que j'ai un peu raconté donc, sur tout ce qui était Terranigma et compagnie, notamment Terranigma, c'est que souvent la thématique c'était une planète qui se meurt, et notamment d'un point de vue naturel, et qu'il faut trouver un moyen de la sauver globalement.
C'est la résurrection d'un monde perdu, ou la résurrection d'un monde existant. Alors. Je vais pas spoiler tout de suite, parce que si les gens veulent éventuellement faire Illusion of Time, ce serait dommage de leur gâcher la fin tout de suite. Mais voilà, il y a une histoire de résurrection d'un monde et tout ça, et qui est un thème qu'on retrouvait donc dans le premier jeu de la trilogie, qui s'appelle Soul Blader au Japon, et qui s'appelle Soul Blazer en Europe et aux États-Unis, qui en Europe était édité par Ubisoft d'ailleurs. Comme quoi, c'est pas toujours Enix. Et qui est un jeu qui globalement je trouve très mal vieilli et qui est assez chiant en fait dans son déroulement, mais qui pose on va dire les bases pour ce qui sera derrière Genza, alors c'est Gaia Genzoki qui est donc qui a été traduit par Illusion of Gaia aux États-Unis. Alors le problème c'est que Gaia Genzoki en fait ça veut pas vraiment dire l'illusion, enfin l'illusion de Gaia c'est pas tout à fait ça, ça veut plutôt dire l'histoire fantaisiste de Gaia. C'est plus une espèce de... C'est Fantasy Story Gaia, si on devait vraiment le traduire un peu plus littéralement. Et donc, je sais pas pourquoi aux États-Unis ça a été traduit par Illusion of Gaia, ce qui n'a pas grand-chose... Enfin, qui déforme un petit peu le titre d'origine. Et en Europe, on a eu Illusion of Time, alors qu'on ne voyage jamais dans le temps.
Oh, hein, mais dès le titre, c'est le merdier.
Dès le titre, c'est le merdier.
Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de voyage temporel, c'est nul.
Il
n'y
a absolument pas de voyage temporel, il n'y en a jamais eu. De tout le truc, il n'y a aucun voyage temporel, ça n'existe pas. Il y a deux ou trois flashbacks, mais c'était flashback. Enfin, je veux dire, flashback, c'est flashback, faut quand même arrêter de déconner.
C'était ce truc qui avait intéressant.
Ceci dit, y a un des passages que moi j'ai vécu où clairement le héros. C'est pas qu'il revient dans le passé, mais on a l'impression qu'il vit une scène qui s'est passée il y a plusieurs siècles ou plusieurs années. Enfin, je sais pas les.
C'est plusieurs siècles, mais c'est pas la question. Le problème, c'est. Le problème, c'est que ça a pas grand rapport quand même.
J'ai pas fini l'histoire du jeu, donc pour l'instant, je vois pas le rapport du titre avec ce que je suis en train de vivre.
T'inquiète pas, il y a aucun rapport. C'est-à-dire que Illusion of Gaia est déjà pas un très bon titre. Parce que, je te dis, le titre original, c'est plus... je crois que j'avais la source quelque part. Mais excusez juste une toute petite seconde, je scroll.
Pendant ce temps, nous avons un tweet de Nintendo qui annonce que Nintendo Australia aurait publié un petit article en avance qui aurait annoncé la mise à jour de Mario Odyssey pour le 23, dans deux jours.
D'accord.
Avec de nouveaux costumes. Priorité les nouveaux costumes.
Donc la traduction idéale des gens qui parlent vraiment japonais disent la traduction idéale ce serait l'histoire fantastique de Gaia, fantastique au sens imaginaire, ou l'histoire imaginaire de Gaia. C'est-à-dire que tu pourrais dire un peu comme le pays imaginaire de Peter Pan, c'est plus dans ce sens-là. Donc c'est l'histoire fantastique de Gaia est une bien meilleure traduction que Illusion of Gaia, l'illusion de Gaia qui veut pas dire grand-chose, et alors Illusion of Time, l'illusion du temps, c'est rien à voir. Zéro pointé.
Et surtout qu'en plus, je sais pas si tu veux parler de Terranigma avant ou on aborde directement le jeu.
Je vais juste finir ça. Donc effectivement, Soul Blazer le premier et Terranigma qui sort je crois qu'en France il est sorti en 97, extrêmement tard, ou Noël 96, un truc comme ça. Donc la PlayStation était sortie, la N64 était sortie depuis un moment et tout ça, donc c'est compliqué.
Ça explique peut-être pourquoi il n'est pas sorti aux USA, du coup.
Il n'est pas sorti aux USA parce que NX était en pleine restructuration de sa filiale américaine et a donc décidé que même si la traduction anglaise était faite à 100%, ça valait pas le coup.
Alors, c'est 20 octobre 1995 au Japon et 19 décembre 1996 en Europe.
Voilà. Et Terranigma...
D'après Wikipédia.
Alors, je vais aborder le sujet de la date de sortie du Journey of Time parce que j'ai une anecdote très rigolote sur le sujet. Terranigma est un jeu qui existe, donc il y a une traduction française, il y a une traduction allemande, il y a une traduction néerlandaise, il y a une traduction anglaise. Et je ne suis pas sûr, mais il me semble que la version anglaise est sortie en Australie. Ce sera à vérifier parce que j'en suis pas certain. Ce que je sais, c'est que la version française est extrêmement difficile à trouver parce qu'elle a dû être tirée à un nombre d'exemplaires vraiment très limité, surtout avec le guide stratégique. Puisque c'était la mode à cette époque-là, Secret of Mana était sorti avec son guide stratégique, Secret of Emmermoor aussi, Illusion of Time est sorti avec son guide stratégique, et heureusement, parce que les traductions un peu foireuses font que de temps en temps, c'est pas si évident que ça d'arriver à se repérer. Petite anecdote personnelle à ce sujet. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, j'avais commencé par dire « Ouais, je m'en bats les couilles du guide, j'ai des grosses couilles », et en fait, je me suis retrouvé coincé sur une énigme à la con sur le tout premier temple, les ruines Maya, et j'avais récupéré la pierre en forme de carré, qui doit s'appeler la pierre carrée d'ailleurs, connement, et j'avais pas vu qu'il y avait une dalle où on pouvait l'insérer dans le sol, dans je sais plus quelle pièce, donc j'ai tourné pendant je sais pas combien de temps à chercher qu'est-ce que je pouvais bien faire de ce putain de truc, et donc à ce moment-là je me suis dit je vais ouvrir le guide, et en fait j'ai fini le jeu avec le guide, mais après ça, donc j'ai été jusqu'au deuxième ou troisième donjon sans le guide, et après...
Quel donjon voilà.
Les ruines Maya.
Enfin, ouais, globalement c'est le second quoi.
C'est le second.
Parce qu'avant, t'as les cachots dans le château.
Ouais, mais
qui est
plus une espèce de niveau d'introduction.
Qui d'ailleurs, en parlant des dates de sortie, je remarque que le jeu est sorti en juillet en France, d'après Wikipédia, mais en avril dans le reste de l'Europe.
Alors,
95.
J'ai un gros problème avec ça.
Soit deux bonnes années quand même après la version japonaise. Hein.
Oui, alors ça, on a l'habitude. J'ai un gros problème avec ça. Les magazines officiels de l'époque l'ont testé effectivement en juillet 95. Sauf que moi, j'ai appelé ma maman. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu te rappelles quand est-ce qu'on a déménagé? J'habitais un appartement à Villiers-le-Bel, j'ai déménagé dans une maison à Gonesse, comme ça vous savez toute ma vie, et je suis certain d'avoir joué à Illusion of Gaia, enfin Illusion of Time, dans cet appartement. Et ma mère, elle m'a dit, mais si tu te souviens du titre du jeu, je lui ai dit c'est Illusion of Time, elle m'a dit, mais ça me dit rien, j'ai dit, c'est un bonhomme, un machin, un chevalier, un truc, elle m'a dit, oui, ça t'y a joué dans la tour, il n'y a pas de problème. Et j'ai déménagé le 19 février 1995, très précisément. Et je suis persuadé d'y avoir joué à l'appartement. Ma mère est certaine que j'ai joué à l'appartement, donc je ne sais pas où elle a chopé cette copie. Mais il n'est pas sorti en juillet.
Mais c'était en français ou en anglais?
C'était en français.
Ah, t'es sûr que c'était pas en 96?
C'est pas en 96.
Illusion of Time, le voilà.
Voilà, Illusion of Time, chez la version alsacienne.
T'es futur.
Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Ma mère a l'air d'être à peu près affirmative sur le fait que c'était mon cadeau de Noël 94, j'en suis à peu près certain aussi. Il y a une couille dans le pâté. Donc j'aimerais bien arriver à trouver une source officielle. J'ai regardé les vieux numéros de Player One sur Abandonware Magazine et tout ça, les mecs ont l'air de dire avril, mai, juin. Voilà. Mais je suis certain que j'ai joué à l'appartement, donc avant le 19 février 1995. C'est très bizarre. Alors, ma mémoire, je me joue peut-être des tours, mais ça m'étonnerait qu'elle joue des tours à ma mère en même temps qu'à moi. Donc, voilà. Si quelqu'un a le souvenir d'une date précise qui lui permettrait de situer Illusion of Time en Europe, ou en France au moins, je serais très curieux. Surtout qu'à cette époque-là, Nintendo, qui serait un petit peu en avance sur une sortie, ça me ferait quand même bien chier. Parce que Nintendo France, c'est quand même les champions du retard. Voilà. Ça me paraît très douteux. Bon, anecdote personnelle à part, donc le dernier jeu Terranigma ne sortira jamais aux États-Unis. C'est un jeu qui est magnifique, c'est un des plus beaux jeux de la Super Nintendo. C'est un jeu qui est super intéressant, un jeu qui est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile qu'Illusion of Time d'ailleurs, qui finalement est assez facile à jouer. Je veux dire, quand j'étais petit, j'en chiais à mort, surtout sur les boss, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas si difficile que ça. Terranigma, lui, est vraiment beaucoup plus corsé et surtout beaucoup plus long, puisque Terranigma, en fait, il faut. Le principe du jeu, c'est qu'il faut aller. L'humanité a été. S'est éteinte de la surface de la planète et vit en fait sous la surface de la Terre. Et l'idée, c'est qu'en fait, en battant certains boss et en libérant certains temples, on ressuscite des continents perdus.
Illusion of Time. Des continents réels, d'ailleurs.
Qui sont des continents réels. C'est l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antarctique, et ainsi de suite. Et Illusion of Time, en fait, c'est aussi la résurrection d'un monde perdu, puisque tu vas aller... l'idée du jeu, c'est qu'on te dit, bah voilà, pour sauver le monde de Dark Gaia, alors la, en français, la comète bleue va te niquer.
Alors qu'elle est rouge dans le ciel. Hein.
Exactement. Et qu'elle est, et dans la première traduction, qui est le dialogue entre Paul et son père, il lui dit, l'orbe noire va te niquer.
Non, hein, mais c'est... Daltonien, tout ça, on comprend.
Comète bleue, orbe noire, allez vous niquer. Dark Gaia.
Je voilà, constate je... qu'on traduisait les RPG comme on traduisait les dessins animés dans le Club Dorothée.
tu as blessé Edmond, Jean-Michel et Bernard.
C'est un peu ça. Hein. Il y a Paul, Basile et oui, Jonas. Jonas bon, qui se fait bouffer par le poisson d'ailleurs.
J'embraye juste après ça parce que c'est voilà. Donc Dark Gaia va détruire le monde. C'est une comète qui se rapproche très vite et donc le Paul se retrouve un peu pris entre le marteau et l'enclume. On lui dit bah voilà, il faut que tu ailles réunir les 6 statues Exades. Statue Exade, c'est encore une mauvaise traduction d'ailleurs. Attendez. Je vérifie, je suis désolé, j'ai mon petit manuel de traduction juste à côté parce que justement il y a
d'ailleurs, Gaia que tu rencontres en sortant du catéchisme au tout début du jeu, parce que le jeu en fait commence déjà sur une phrase qui est « Je m'appelle Paul », ce qui est quand même assez étrange quand tu lances un JRPG même de l'époque, et en fait notre héros est dans une église en train de faire du caté.
Alors dans la version japonaise oui, mais dans la version française non, il est à l'école. Et c'est pas la croix qui est au-dessus du prêtre, qui est clairement un prêtre, le moine n'a pas été changé, c'est vraiment un moine, c'est un sprite de moine. Ça a été remplacé par une espèce de vierge, mais qui n'est pas vraiment vierge. Donc c'est bon, pour Nintendo of America, c'est pas un symbole religieux.
Alors, ceci dit, c'est pas choquant qu'en fait il est école ou dans une église, puisque en fait au Moyen-Âge, c'est là où ça se faisait globalement, hein. c'était pas déconnant en fait.
Moi, oui,
ça m'a pas choqué plus que ça. Et donc du coup, quand tu as fini les cours, tes copains te disent hey, on va aller jouer dans la grotte. Et en fait, si tu décides de sortir par la porte de gauche et pas par la porte de droite, et bien tu te retrouves sur le toit. Et alors là, tu tombes sur une espèce de porte vers un autre monde. Donc, au début du jeu, tu ne sais pas ce que c'est, tu rentres, et là, tu tombes sur une espèce de truc qui ressemble à Méduse, et en fait, c'est Gaia. Et là, elle te dit, hey, c'est toi le héros. Et là, t'es wow, j'ai jamais fait un truc aussi abrupt de ma vie en termes de début de jeu.
Ah putain, ouais.
Attends, mais je te rappelle que c'est quand même mieux que la plupart des JRPG où tu t'endors, tu te réveilles amnésique, et les animaux de la forêt deviennent fous.
Oui, mais il y a juste ce milieu.
C'est un peu brutal. C'est un peu brutal.
Surtout que la première fois, enfin, faut quand même se dire que le point de sauvegarde dans Illusion of Gaia, c'est pas le petit cristal que tu as posé par terre, comme c'est souvent le cas dans les JRPG. C'est en fait une espèce de truc, une boule lumineuse quand tu t'approches.
C'est une dimension
en fait,
parallèle.
Tu as une porte qui s'ouvre sur une dimension parallèle. Et donc,
qui est très cool d'ailleurs. Enfin, je trouve que tu sais, t'as l'espèce de boule qui wobble, je n'ai pas de mot français, enfin qui se déforme un petit peu dans l'air, puis quand tu t'approches, ça se transforme en porte, puis quand tu y vas, tu téléportes et t'atterris dans la... Alors, tu atterris dans le... Alors, en version japonaise, c'est le Dark Space.
D'accord.
Ce qui est à peu près cohérent, enfin, je... Voilà.
C'est une espèce de dimension parallèle où tu es dans une espèce d'espace intersidéral.
C'est ça. Et en fait, ah oui, donc voilà, au Japon, c'est la zone noire. Je ne le prononcerai pas en japonais parce que sinon je vais le déformer. Aux États-Unis et en Allemagne, ça s'appelle le Dark Space. Et en France, l'abri de Gaia.
Ce qui n'est pas complètement débile, en l'occurrence,
celui-là, il est peut-être pas mal.
Parce que la notion d'abri, en fait, quand tu es dans les donjons, elle est présente parce que tu n'as quand même pas énormément de soins autour du jeu. Et quand tu rentres dedans, tu sais que tu vas pouvoir sauvegarder. Donc c'est un checkpoint. Tu vas pouvoir te faire soigner. Ce qui est quand même plutôt sympa, et parfois tu trouveras, bon, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit peu après dans le gameplay, mais parfois tu as des statues de toi, où en fait ça te file des nouvelles compétences, où ça te transforme en un mec super balèze, enfin, je sais toujours pas qui c'est, mais...
Alors voilà, donc le jeu est un RPG, est un action RPG, hein. Assez classique.
C'est vraiment dans la veine d'un Secret of Mana, quoi.
Oui, plus un Secret of Mana qu'un Zelda, d'ailleurs, sur le principe.
J'aurais plus dit l'inverse, en fait, vu le système de progression, mais... Parce qu'il n'y a pas de temps de magie, en fait.
Il y a des magies, mais en fait, qui ne consomment pas de barres de magie, c'est simplement des manipulations à faire avec le pad. Donc tu gagnes, en fait, des espèces de pouvoirs. Il y a une charge, il y a une glissade, il y a une toupie, et il y a deux, trois autres trucs comme ça. Le système de progression est, en fait, assez simple. Si tu élimines dans un donjon l'intégralité des ennemis d'une pièce, tu vas gagner de la vie supplémentaire, puis de la force, puis de la défense. En gros, ta vie, ton attaque et ta défense vont augmenter au fur et à mesure. Donc la première salle en fait, que tu vas vider intégralement de tous ces ennemis, tu vas gagner de la vie en plus, puis la deuxième salle de l'attaque, puis la troisième salle de la défense, et ainsi de suite. Donc en fait, si tu finis tous les donjons et que tu finis à 100%, c'est-à-dire que tu élimines absolument tous les ennemis de toutes les salles, normalement tu finis à la fin du jeu avec 20 points de vie au total, 20 points d'attaque, 20 points de défense.
Ce qui est un bon système de progression, et mine de rien, permet de juger aussi ton avancée dans le donjon, puisque en fait au début tu vas un peu galérer sur les ennemis, et à la fin tu vas leur rouler dessus.
Exactement, parce que tous les ennemis ont des... Enfin, le jeu est super linéaire, c'est quand même peut-être un de ses défauts, mais moi je trouve pas que ce soit forcément un défaut, parce que l'histoire est plutôt bien menée, donc en fait...
Oui, ben, c'est pas un défaut d'être linéaire quand c'est bien fait, en fait.
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, c'est très bien fait, c'est-à-dire qu'on te dit, bah voilà, faut aller à tel endroit, puis une fois que t'as récupéré la statue Exade, donc le machin, on te dit, ok, bon, bah maintenant, faut aller à tel endroit, et en fait, le scénario t'amène assez naturellement à ces endroits-là, sans que ce soit choquant, sans que ce soit vite, il faut aller sauver machin. Non, c'est bon, de toute façon, là maintenant, on n'a pas le choix, on va là. Et il y a un moment où effectivement, t'es naufragé, donc t'as pas le choix. De toute façon, t'atterris là où t'atterris, et puis point trait, t'as pas le choix.
Il y a une certaine logique de. Aussi, t'es là pour sauver le monde, et en fait, t'as. Alors, pour le choix d'un jeu, ils l'ont pas vraiment dit, mais on comprend très facilement. C'est que cette fameuse comète, la Dark Gaia, que tu vois dans le ciel. Bah, en fait, plus elle se rapproche et plus elle crée des emmerdes dans le monde. Le premier truc que tu vois, c'est globalement le roi du pays où tu habites qui décide, parce que tu lui as pas ramené ce qu'il fallait, de t'envoyer en tôle, quoi.
Oui, puis il y a plein d'autres trucs qui partent en couille, c'est-à-dire les habitants de telle ville qui jusqu'à présent étaient très heureux de faire je sais pas quoi. Alors, c'est beaucoup plus tard dans le jeu, je crois que c'est après ce que toi tu avais fait. Ils étaient super heureux, machin, tout ça, puis finalement ils deviennent cannibales.
C'est vrai, c'est.
L'évolution normale. Hein.
L'évolution normale. Le monde part en couille, tu sais, tu t'es fait unfollow sur Twitter, bah tu deviens cannibale. Ça me paraît logique.
Ça m'arrive tous les jours.
C'est. Voilà, donc le système de progression fonctionne comme ça, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas dans l'abri de Gaïa, de temps en temps, tu as la statue d'un chevalier qui s'appelle Chrysaor, et qui en fait est ton. Alors, c'est très mal expliqué dans le jeu, c'est beaucoup mieux expliqué dans le guide stratégique qui allait avec. En fait, c'est ton alter ego sombre.
Tout est dans le manuel.
Tout est dans le manuel. Et donc Chrysaor, c'est un chevalier qui a la particularité d'avoir grosso modo deux fois plus de points de défense et deux fois plus de points d'attaque
que, et deux fois ta taille aussi.
Et deux fois ta taille que Paul. Et c'est intéressant parce que il est très costaud, donc il a une épée qui a une grosse portée et tout ça, mais il y a des trucs qu'il peut pas faire. Il peut pas jouer de la flûte, il y a tout un tas de trucs qu'il peut pas faire. Donc en fait, les donjons sont conçus de sorte à ce que tu sois obligé de passer d'un personnage à l'autre. Et plus tard dans le jeu, ce n'est pas un spoil, précise, il y a un troisième personnage que tu peux incarner qui alors
moi, en fait quand tu es dans la salle de sauvegarde il y a un troisième
emplacement pour une troisième statue et en fait donc là c'est atroce aussi donc au Japon elle s'appelle Shadow et en fait c'est une espèce de personnage un peu éthéré un peu comme on a l'impression qu'il est enflammé qu'il est bleu complètement enflammé et qui en fait a la capacité de se liquéfier pour passer à travers le sol ou des choses comme ça, ou se protéger, donc c'est quand même assez puissant comme personnage, qui lui, pareil, fait 3 fois plus de points d'attaque, 3 fois plus de points de défense, donc c'est vraiment le personnage ultra bourrin, mais qui n'a pas les mêmes pouvoirs que Chrysaor, n'a pas les mêmes pouvoirs que Paul, donc le dernier donjon où il est introduit, qui est la pyramide d'Égypte, qui est un des derniers donjons du jeu, en fait, tu te rends compte que il faut vraiment alterner entre Paul, Chrysaor, et, attention, version française oblige, ce n'est pas Shadow, c'est Liquefia. Va te niquer.
Les morceaux, ils font mieux, quoi.
Ouais, non, là, c'est horrible. Surtout que Liquefia, oui, elle peut se liquéfier, super. Mais merci beaucoup. Pourquoi ? Arrêtez, s'il vous plaît. Donc, c'est ignoble. Et tu te rends compte que le donjon est vraiment fait pour que tu sois obligé d'aller alterner entre Paul, Chrysaor et Liquefia à certains moments clés. Alors, évidemment, on te donne un peu des indices parce que tu atterris dans un abri de Gaïa et. Chrysaor est pas disponible, il y a que Liquefia, puis dans un autre, t'as les deux disponibles, mais en fait, juste à la sortie de l'abri, tu vois qu'il y a un pouvoir qui est disponible que pour Chrysaor. Donc, hein, le jeu te donne des indices, c'est pas comme si on te laissait une complète liberté, c'est plutôt quand même assez sur des rails, mais c'est super intéressant parce que t'as finalement, peut-être pas 3 gameplays différents, mais on va dire 3 possibilités différentes, et comme tu ne peux changer qu'au niveau des abris de Gaïa, t'es vraiment obligé de prévoir avant pour éviter de faire du backtracking constamment pour aller reprendre le personnage qui va bien.
Sachant que les donjons sont quand même vraiment linéaires, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est on n'est pas sur un schéma de donjon à la Zelda comme c'était à l'époque avec des trucs très labyrinthiques, c'est en fait il faut faire les trucs dans l'ordre.
Alors ça dépend. Les premiers donjons oui, c'est-à-dire la prison qui est le premier donjon et la falaise qui est le deuxième. Le Celesto c'est pas le cas, hein. T'as 4 chemins, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux.
Oui mais en fait comment dire, quand tu vas rentrer sur un chemin, tu n'as pas besoin d'aller sur les autres, il n'y a pas de répercussions, c'est le chemin est indépendant des autres.
Oui, ça c'est vrai.
Donc c'est, au final, c'est pas très compliqué non plus. Ceci dit, c'est un découpage qui rend le niveau un peu plus facile. Hein.
Après, il y a des niveaux un peu plus compliqués parce que là, donc le, y a deux ou trois donjons un peu originaux. Il y a notamment le donjon le plus difficile du jeu qui est juste après celui que tu as fait. Donc dans l'ordre, il y a la prison, les ruines Maya en version française, Inca en version japonaise.
C'est la même chose.
Absolument pas. C'est deux civilisations complètement différentes.
Non, pour eux, c'est la même chose.
Mais oui, écoute, c'est des barbares d'Amérique du Sud. Il y a le Celesto, donc le Sky Garden. Le jardin du ciel, qui en fait est une référence au jardin suspendu de Babylone, parce que tous les. C'est la. T'es à Nazca, qui est donc une plaine Inca. Ah non, Maya. Je sais plus. Merde. Mes civilisations précolombiennes m'échappent, excusez-moi. Et en fait, t'as plein de références babyloniennes dans ce truc-là. Donc déjà, le jeu déconne un tout petit peu là-dessus, parce que tu passes des plaines Nazca, Inca, un truc avec plein de références babyloniennes, c'est un petit peu con. C'est une référence au jardin suspendu de Babylone, et en fait, c'est un niveau très cool, puisque tu as l'endroit et l'envers, en fait, du donjon, et t'es obligé d'aller circuler entre l'endroit et l'envers pour arriver à le finir.
Sachant que les ennemis sont plus balèzes dans l'envers.
C'est normal, c'est le côté sombre.
Et ça m'a rappelé, d'ailleurs, l'avant-dernier donjon de Twilight Princess. Celestia.
Oui, effectivement, c'est rigolo qu'on parle parce que ça, c'est un niveau qui fonctionne un peu comme ça. Effectivement.
Pas exactement comme ça, mais dans l'esprit, déjà, c'était assez proche. Même en termes de design, tu vois.
Effectivement, c'est rigolo, j'y avais pas repensé. Bref, enfin, après, tu as un passage sur Mu, qui est un continent légendaire. En fait, Mu, c'est un monsieur qui avait proposé une théorie pour pourquoi toutes les civilisations du Pacifique se ressemblent autant. C'est de dire, avant, il y avait un grand continent qui s'appelait Mu, qui est un continent donc imaginaire, théorique.
L'équivalent de l'Atlantide, en fait.
L'équivalent de l'Atlantide qui s'est effondré, et les petites îles qui restent, en fait, c'était les montagnes de Mu qui sont restées, et du coup, cette civilisation-là, bon, c'est complètement faux, Mu n'existe pas, mais ça a été repris dans le jeu, avec une esthétique qui est proche de celle de l'île de Pâques, pour le niveau, qui s'appelle en anglais le palais sous-marin, et en français le palais zombie. Parce que nique ta mère.
J'avoue que là...
Là, c'est chaud, quand même. Je suis désolé, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, c'est un des donjons qui est à la fois les plus difficiles et les plus originaux. Il reprend un peu le principe du Temple de l'eau. Enfin, il était bien avant le principe du Temple de l'eau d'Ocarina of Time. C'est-à-dire que tu peux faire descendre, en fait, le niveau de l'eau dans le palais. Et en fait, chaque salle que tu as, il y a un niveau 0, il y a un niveau -1, il y a un niveau -2. Et tu peux pas nager. Donc, en fait... Quand tu commences le donjon, toutes les pièces sont au niveau 0, puis tu vas aller faire une certaine action et ça passe le niveau de l'eau à moins 1, donc tu vas avoir d'autres ennemis et d'autres pièces à explorer et qui vont pas forcément succéder dans le même ordre, donc il va falloir avoir un routing différent pour aller libérer le niveau moins 2, où tu vas encore avoir un routing différent pour atteindre le boss. Donc c'est assez rigolo parce que finalement tu reparcours les mêmes salles mais dans un ordre différent et avec une logique différente. Le seul problème, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu vides une salle de ses ennemis, tu gagnes un power-up en fait. Bah là, en fait, tu fais le niveau 0 et le niveau moins 1, tu gagnes 0 power parce qu'évidemment, t'as pas vidé la salle des ennemis. Tu peux la vider réellement que quand t'arrives au niveau moins 2. Et donc, ce putain de palais, enfin, ce putain de donjon, il est hardcore du cul. Parce qu'en fait, t'es en slibar jusqu'à ce que t'aies activé le dernier truc qui te permet d'aller finir les pièces. Et alors là, par contre, tu enchaînes. Chaque fois que tu bats 2 ou 3 ennemis, boum, tu gagnes un cœur, boum, tu gagnes de l'attaque, boum, tu gagnes de la défense, et tu commences à bourrer comme un sac. Mais avant ça... Putain, c'est la merde. Mais vraiment, c'est ultra vicieux parce que tu ne peux pas gagner de power-up avant d'arriver à la quasiment fin du niveau, enfin avant d'arriver au dernier tiers du donjon. En fait.
Ouais, ce qui est d'ailleurs un rythme. Enfin, moi, j'ai remarqué plus dans la mine que dans les autres donjons où en fait, tu es obligé au début d'être assez prudent avec les ennemis et les engager assez facilement parce que si tu meurs, en fait, à moins que t'es accumulé assez de... Alors, je sais plus, des grenades, je crois, en français.
Oui, c'est des orbes en anglais.
Pour avoir une vie, les ennemis vont tous ressusciter.
Oui.
Et en fait, donc, t'es obligé de négocier calmement les premières pièces pour obtenir les power-up. Et donc, c'est vrai que, ouais, effectivement, si tu dois faire tout le tour du donjon avant de pouvoir défoncer tout le monde et être augmenté, c'est un peu compliqué.
Et le pire, c'est que ça se termine par un boss. Alors, pareil, c'est atroce. Attendez, j'ai la traduction, bougez pas, parce qu'elle est énorme. Ah, c'est les boss.
Comme
Non. Alors, la traduction des boss est absolument atroce, il n'y a pas de souci. Donc, en anglais, alors en fait, le boss de l'île de Mu, c'est deux vampires. Donc, c'est un double boss. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 points de vie comme tous les boss, il a 40 points de vie, déjà. Ça commence bien. Et donc, en anglais, en japonais, il s'appelle Jackmond et Sylvana. Donc, c'est deux vampires. Un homme, une femme, qui s'appelle Jackmond et Sylvana. En version anglaise, il s'appelle Jack et Sylvana. Et en version française, c'est Nosfé et Ratu. Parce que c'est bien connu que les gamins de 10 ans savent parfaitement qui est Nosferatu le vampire, une référence au cinéma muet allemand des années 30.
C'est connu quand même comme nom.
Non, c'est connu, mais c'est compliqué, quoi. Moi, j'avais demandé à ma maman ce que c'était Nosferatu. Je me doutais bien qu'il y avait une référence, mais je comprenais pas laquelle. C'est juste, je trouve ça assez hallucinant, quand même. Bref. Et donc ce boss est absolument atroce, surtout que le level design est fait de telle manière que tu ne peux pas avoir Chrysaor pour aller le battre, donc le chevalier qui est quand même sacrément plus balèze. Et
donc
plus
tu fais deux fois moins mal.
Donc tu fais deux fois moins mal, tu prends deux fois plus cher, et il a 40 points de vie. Enfin 20 points de vie pour Nosfé, 20 points de vie pour Ratu. Et il faut arriver à te faire les deux.
Ratu.
Bah oui, mais je suis désolé, mais c'est le nom. Hein.
Je sais pas si Nosfé
est le mec ou Ratu est la meuf, en fait, je sais pas. J'ai jamais creusé le truc, je crois que c'est pas dit dans le jeu. Sachant qu'en plus, ce combat-là est timé, parce qu'en fait, il y a un de tes potes qui est accroché à une bombe au milieu de l'arène, et donc tu as 140 secondes pour battre les deux.
est-ce qu'il n'y a pas aussi Akuma qui débarque à la fin pour te péter la gueule lorsque ça s'est produit
C'est un peu ça, ouais. C'est un moment... ce truc est atroce. Il y a un pic de difficulté à ce moment-là qui est vraiment...
Ah, ça n'était même pas ma forme finale.
C'est presque ça. Mais je ne comprends pas en fait ce truc-là. Il y a vraiment un moment où il y a un gros problème. Tu as vraiment un pic de difficulté, mais complètement hallucinant. Et moi, quand j'étais petit, j'en ai chié comme un turc pour arriver à passer ce truc-là. Et je pense que j'ai dû le passer sur un coup de bol. Ou alors en bourrant les herbes de soins comme un malade.
Ce qui peut effectivement être une stratégie.
Ou alors en faisant des resets, parce que je rappelle que si tu manges tes herbes et que tu perds une vie, donc tu recommences, hein, si tu perds une vie, mais t'as perdu tes herbes que t'as consommées. Alors que les ennemis, eux, ressuscitent.
Stone.
Ah non, mais c'est quand même assez violent. Et enfin, voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et derrière, tu fais encore deux monuments historiques. Donc, tu as la Grande Muraille de Chine, qui est en fait un niveau vertical. C'est assez rigolo, mais en fait, tu as plein de portes qui communiquent sur les différents étages de l'intérieur de la muraille. C'est très bizarre, parce que je pensais que l'intérieur de la muraille, il n'y avait rien, mais en fait, apparemment, non. Si j'en crois le Legend of Time, il y a des trucs dedans. Et donc, c'est un donjon qui est complètement vertical. En fait, tu as des tours qui sont reliées par des passerelles, et l'idée, c'est d'aller arriver à franchir toutes les tours. Tu enchaînes sur tout un tas d'aventures complètement ouf. Tu croises des autochtones dans une ville qui s'appelle Autochtoville parce que ta mère voilà, tu fais le temple d'Angkor Wat, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est au Cambodge si je dis pas de bêtises, ouais. Ou en Thaïlande, non c'est au Cambodge, ah j'ai un doute, je sais plus, je crois que c'est au Cambodge. Voilà, donc tu fais le temple d'Angkor Wat où tu vas combattre des trucs asiatiques mais pas les mêmes qu'avant. Et tu finis par la grande pyramide d'Égypte. Et une fois que tu as récupéré les 6 statues exactes donc dans ces 6 donjons principaux, ce qui fait déjà une belle aventure bien longue, entrecoupée de petites villes typiques avec plein de petits détails très rigolos, dont on parlera un petit peu après peut-être.
Tu dois aller à la tour de Babel.
Alors non, la tour de Babel, c'est en japonais. Et en anglais. Et en français, c'est la tour Pandémon.
Parce que ta gueule.
D'ailleurs, en français, le niveau ne s'appelle pas la pyramide, il s'appelle le grand triangle. Non, je déconne. J'ai senti le moment d'arrêt, vous avez putain, ils ont pas fait ça quand même.
Oui, plausible.
Non, mais voilà, le grand triangle à base carrée, d'accord.
C'est au point où on en était, honnêtement.
Ça pouvait passer, c'était crédible. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu fais la tour de Babel. Malheureusement, étant donné que c'est un jeu quintet, eh bien, à la fin, il y a un boss rush. Alors, c'est triste parce que c'est le cas dans Actraiser. Et il est bien chiant le boss rush dans Actraiser parce que je crois que tu peux sauvegarder que... T'as 6 boss dans le jeu, un peu pareil. Je crois que tu peux sauvegarder qu'après le 3ème. Donc c'est quand même assez violent. Surtout que c'est la version hardcore des boss, en plus, c'est pas la version simple. Dans Actraiser 2, c'est pareil, ça se termine par un boss rush. Soul Blazer, ça se termine par un boss rush. C'est chiant. Et donc, Illusion of Time, ça se termine par un boss rush qui fonctionne de la même manière. Donc, tu te refais les trois premiers boss. Et les trois premiers boss, ça veut dire les deux vampires super balèzes. Donc, voilà. Et c'est après les vampires que tu peux sauvegarder.
C'est pas avant, tu vois. C'est, déjà
c'est,
ça.
Pas, c'est pas avant. Et après, tu bats le boss final du jeu. Donc, Dark Gaia, en version japonaise. Et en version française, la comète du chaos. Qui n'est donc, du coup, plus l'orbe noire, plus la comète bleue, qui est rouge. Mais qui est la comète du chaos. je suis désolé, hein. La traduction française, ça va pas être possible. C'est vraiment compliqué. Et je vous dirai pas ce qui se passe à la fin tout de suite, parce que j'aimerais bien quand X
nous parle un petit peu...
Oui, tout à fait, ils meurent tous. J'aimerais bien quand X nous parle un petit peu du charme du jeu, puisque c'est toi qui es le plus marqué par ça, parce que moi, comme je le connais déjà bien, c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont pas forcément marqué, mais tes compagnons sont plutôt rigolos, ils sont plutôt attachants. Les villes que tu visites sont plutôt rigolotes, attachantes, même s'il y a un fond sombre. Mais je sais qu'il y a 2-3 détails qui t'avaient un peu fait marrer dans le truc, enfin, un peu touché, on va dire.
Il y a beaucoup de trucs, en fait, qui m'ont... Enfin, j'ai joué samedi au jeu, justement, pour préparer l'émission, histoire d'avoir des trucs à dire et pas d'être faire les légumes comme Drosgar et Mecton.
Ah, le bâtard !
Nous, on est des légumes ? Mais non, on est là pour faire un peu spectateur, c'est tout.
Oui, mais au moins, ils sont véganes.
Ah, c'est pas faux. Et du coup, j'ai fait un live feed du jeu en fait assez rapidement. Je trouvais qu'il y avait quand même des trucs assez rigolos, très clichés. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un RPG aussi simple dans son approche et aussi un petit peu naïf. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, pour rigoler, je vais tweeter mon expérience du jeu. Je me suis quand même bien pris au jeu parce que je crois que j'ai fait quand même une quarantaine de screenshots. Donc, ils vont aller.
Ça, ça a duré 4 ou 5 heures quand même. Donc t'as...
Ouais, enfin, je vais entrecouper de la pause déjeuner hein, quand même.
Ouais, mais bon, je pensais pas que t'accrocherais autant si tu veux.
Moi non plus, j'avoue que j'avais un peu d'appréhension parce que j'avais pas joué à un jeu aussi vieux depuis. Alors là, le dernier jeu rétro que j'ai dû faire, à mon avis, ça devait être. Là, tu vois, je serais incapable de le dire.
C'est pas Chrono Trigger ou quelque chose comme ça, par
non,
exemple.
Non, il y a un moment.
C'est pas bien grave.
C'est pas très grave. Mais ça faisait quand même plusieurs années que j'avais pas fait un jeu rétro comme ça. Et surtout un jeu que je connais absolument pas et finalement j'ai pas lu ou vu grand chose parce que c'est un jeu qui est, ce que j'ai compris, est plutôt apprécié, notamment du public français parce que des RPG on en avait pas beaucoup et des RPG en français, même mal traduits, on en avait encore moins.
Et c'est clair qu'avec Secret of Mana et Secret of Evermore, c'était les seuls. Hein,
c'est globalement les seuls, et Zelda, du coup.
Et Zelda, oui.
Et c'est... Donc j'ai lancé le jeu, et effectivement, j'ai assez rapidement accroché. Donc effectivement, les défauts de traduction se sentent quand même. On voit que le petit côté dessin animé de Club Dorothée que je citais tout à l'heure, ben, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on on francise les noms, on les change... Il y a quelques trucs, voilà, comme tu as précisé, des éléments qui changent de nom en cours de route. Donc il n'y a pas de doubleur, mais je ne serais pas été surpris que les doubleurs changent aussi en cours de route. Et surtout, il y avait surtout une certaine. Alors, déjà, ça, comme j'ai dit au début, ça enquille très vite sur le scénario. Au point que des fois, c'était un peu brutal. Donc quand tu vas voir le roi, parce que tu lui as pas amené la bague qu'il voulait, bah, il te fout au cachot direct. Ah ouais, d'accord.
Parce qu'il faut bien faire avancer le scénario, c'est un peu ça. T'as l'impression des fois que ça marche un petit peu à marche forcée, c'est-à-dire qu'on te dit bon bah voilà, maintenant faut faire ça, allez hop.
Mais je trouve le début du jeu jusqu'à ce que tu retournes, tu sors du cachot, très forcé, du coup c'est genre un peu ah merde, on savait pas trop quoi mettre au début, bah du coup on va faire ça, ça et ça. Voilà. C'est très très abrupt. Et en fait, après ce passage, quand tu commences à justement explorer la falaise et les ruines donc Maya, et pas Inca, parce qu'en France, on décide de faire autrement, le jeu commence à bien démarrer, et en fait, moi, c'est à la fin des ruines Maya que la scène en fait, que j'ai le plus apprécié du jeu actuellement est arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre, dans les ruines, t'es censé se trouver un bateau d'or utilisé par le peuple local pour pouvoir se barrer. Et on le découvre, et en fait, on se rend compte que ce bateau est encore habité. Donc on discute un petit peu avec les gens qui déjà te confondent avec leur roi, donc ça te crée un petit peu de mystère vis-à-vis du jeu, et peut-être aussi de ta seconde forme, parce que moi je me suis dit, bah peut-être que la seconde forme en fait c'était le roi des Moyas, tu vois.
Mais en fait non, c'est juste comme ça, c'est une astuce scénaristique, je pense, juste pour te mettre un peu, je pense que c'est pour te mettre un peu mal à l'aise en fait, enfin pour que tu te sentes un peu mal à l'aise, puisque systématiquement quand tu interroges quelqu'un, il dit, oh, c'est le roi, vive le roi, et Paul répond systématiquement, c'est toujours le même dialogue, il dit, moi, le roi. C'est, genre même lui, ça le... Donc,
ah oui, Paul parle aussi, c'est un peu bizarre.
C'est, avec Zelda, c'est un peu bizarre.
C'est ça. Parce qu'il a quand même la bonne tranche du héros de Zelda, quoi. Et donc c'est là où il y a une des premières scènes que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui est la sortie du bateau, parce qu'à la base, il est dans une grotte, et en fait, il va vers l'océan. Et en fait, c'est tout bête, on te demande d'aller sur au sommet du mât principal, donc sur la vigie, pour voir le bateau partir. Et en fait, tu vois juste le fond qui était un fond noir avec quelques lumières pour sûrement faire les reflets de la grotte. Commencer à s'éclaircir de plus en plus, et là, tu vois juste la mer qui défile en fond. Alors, c'est de la Super Nintendo, c'est pas incroyable, mais sur le coup, ça fait son petit effet. Et j'avoue que j'avais bien aimé ce moment-là où tu vois justement la mer défiler au fond. C'était assez saisissant, et avec les moyens de l'époque, je crois que ça a vraiment réussi. Et donc une fois que t'as fait cette scène, bah y a quelques autres scènes qui se passent, le bateau coule. Donc ton pote qui s'appelle Jonas se fait bouffer par un poisson.
Alors je précise, donc voilà, en version japonaise, alors, dans la version occidentale, parce que ça a été repris de la version américaine, Jonas se fait bouffer par un poisson, et en fait, alors en japonais c'est par les Léviathans, donc c'est un monstre biblique, le Léviathan. Et aux États-Unis, c'est par des baleines, parce que le monstre biblique, c'était pas possible. Et en français, c'est par Moby, en référence à Moby Dick, qui n'ont rien à voir. Parce que voilà.
Non, c'est pas en référence au chanteur ?
Je ne pense pas. C'est possible, mais je suis pas sûr. Et en fait, je crois que c'est... je sais pas si t'avais été jusque-là, mais en fait, on te dit, Jonas n'est pas vraiment mort, il s'est fait gober, mais en fait, son esprit vit à travers le truc du poisson.
J'ai pas encore arrivé jusque là.
Alors c'est un tout petit peu plus loin, donc il y a pas vraiment de spoiler parce qu'en fait c'est un truc assez connu. En fait dans la version japonaise, non, il crève et le poisson te dit je l'ai bouffé, je suis content. C'est pour te dire à quel point je vais pas du tout sombre au Japon.
Brutal, hein.
Alors que voilà, en Occident ils ont fait non mais c'est bon, en fait il est pas vraiment mort, il vit dans la baleine, ça se passe bien.
Il est vivant, son âme est avec nous.
C'est le plus important.
C'est un chevalier lui aussi.
De toute façon on va battre les méchants avec la force de l'amitié.
C'est ça. Et en fait, une fois que le Léviathan, le poisson, enfin Moby, ce bon vieux Moby, donc, attaque le bateau et le fait couler, et en fait, c'est peut-être la scène que j'ai le plus appréciée pour l'instant dans le jeu, qui est la scène du radeau, où en fait, le héros Paul et la princesse Flora qu'on rencontre au début du jeu, avec qui on s'échappe de son château où son papa est méchant, se retrouvent seuls sur le radeau. Et en fait, c'est une scène qui est extrêmement simple, parce qu'en fait, il n'y a absolument rien à faire à part attendre, puisque tu es sur un radeau. Que tu vas y passer 3 semaines. Alors, je trouve quand même qu'il est vachement balèze pour passer 3 semaines. Et en fait, il se passe plein de petites scénettes. Bon, évidemment, on voit que le héros et l'héroïne commencent à se rapprocher et à tomber amoureux. Mais t'as plein de petits trucs. En fait, c'est vraiment un moment où t'attends, il se passe des choses. Les mecs qui essaient de vivre un peu leur vie. Ça te parle de la fameuse comète qu'on voit au loin. Y a des poissons qui passent aussi, tu essaies de les choper pour manger. Enfin, c'est une scène que je trouve en fait très simple, mais qui marchait bien. Et qui en plus ça le fait une très bonne transition avec l'arc d'après qui va être à Frésia. Et qui va, bah c'est celui dont je parlais avec les histoires des esclaves. Puisqu'en fait tu vas trouver une bouteille à la mer d'un mec qui s'appelle Victor et qui te dit bon bah voilà, je vais être emmené en tant que marchandise dans cette ville. J'espère que vous pourrez me trouver et peut-être m'aider, trouver ce message et peut-être m'aider. Et voilà, ça fait partie de ce passage-là, en fait, qui se conclut au bout de, je dirais, 5-10 minutes grand maximum. Et ceci dit, j'aime bien la conclusion, puisqu'en fait, le héros s'évanouit parce qu'il a le scorbut.
Parce que oui, il a passé 3 semaines sur un bateau à manger que du poisson.
Ce qui est logique. Et je me suis dit, mais waouh, d'habitude, il aurait genre eu un spasme parce que son alter ego démoniaque avait décidé de se réveiller, et voilà. Non, il avait juste le scorbut.
Non mais le jeu a des petites fulgurances comme ça de narration, des idées de narration rigolotes, et il y en a un petit peu plus loin dans le jeu en fait où tu vas visiter certains endroits bien précis, en fait il n'y a pas vraiment de trucs à résoudre pour avancer ou de dialogue à faire avancer, c'est juste bah voilà, il y a un timer et en fait au bout d'une minute et demie, 2 minutes, on te dit bah voilà, c'est bon, on peut y aller. Et ils en profitent en fait pour montrer un décor, montrer un truc, te laisser admirer quelque chose. Enfin, tu vois, c'est vraiment finalement des passages de narration très posés qui entrecoupent des donjons qui sont pas forcément toujours ardus, mais qui sont assez sympas à parcourir. Et c'est ça que je trouve vachement bien dans ce jeu, c'est que je trouve que la narration est intéressante. Je trouve que les donjons sont plutôt bien faits. C'est très linéaire au final, mais comme le jeu t'emmène bien dans son histoire, il t'embarque bien là-dedans. En te montrant des choses jolies et en essayant de te faire participer le plus possible et en essayant de t'impliquer dedans, avec un petit peu d'humour de temps en temps, ça marche plutôt bien. C'est un jeu qui est vraiment très agréable à jouer.
Je suis très surpris parce qu'en fait, ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on fait dans le jeu vidéo actuellement, qui se veut très cinématographique. En fait, c'est une réflexion que je me suis fait depuis quelques temps sur les JRPG notamment. Enfin, en tout cas, les plus vieux. Alors, j'avais lu il y a pas longtemps qu'on comparait souvent les Final Fantasy à des opéras, ne serait-ce que les personnages qui sont d'un côté, les héros d'un côté, les méchants de l'autre, le côté très dramatique, très grandiloquent, et au point qu'ils ont fait un opéra dans le 6. Et moi, il y a aussi des fois où je trouve que c'est un côté bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des moments qui vont juste être de la description, où les mecs vont se poser et raconter des trucs qui vont pas forcément être spectaculaires, mais qui vont créer un mood, une ambiance. Et moi, cette scène du radeau, en fait, ça m'a rappelé aussi que ouais, le cinéma, c'est cool, mais en vrai, moi, interagir un petit peu avec la princesse, essayer de lui filer à bouffer, essayer de trouver des trucs à faire sur ce radeau, ben, en fait, ça m'avait plus impliqué que n'importe quelle cinématique de Xenoblade 2, par exemple. Allez, j'en profite.
Putain, il revient encore. Il a gagné, ça lui suffit pas. Faut qu'il l'humilie.
Mais il l'a bien là.
Humiliation.
mais vraiment, c'est bête, mais il y avait une simplicité, une naïveté dans ces 10 minutes de jeu que dans 70 heures de Xenoblade, je n'ai jamais vu. Donc c'est dire qu'il y a peut-être des idées qui étaient utilisées avant qui mériteraient d'être reprises et réutilisées avec des codes modernes. Enfin,
je trouve ça rigolo la comparaison avec la littérature, c'est-à-dire de dire finalement Michael Bay c'est très bien, mais un écrivain c'est très bien aussi, et de temps en temps avoir des passages de narration beaucoup plus posés et où la narration ne se fait pas forcément par effectivement une cinématique grandiloquente où on montre le méchant très très méchant parce qu'il a les cheveux blonds et tout ça, qu'il a une moustache. Non, mais qu'on...
La moustache.
Voilà. Là tu combats un vrai méchant qui est l'incarnation du mal absolu, tout ça. Donc il y a pas de bien, le truc est effectivement très naïf, il y a pas de traîtreux à la fin. Non, c'est une bande de gamins qui va combattre Dark Gaia parce que malheureusement c'est leur destin à eux, donc bah ils y vont et puis c'est tout. Et entre deux, on essaie de te faire vivre des relations entre les personnages et de te montrer un petit peu comment ça se passe.
C'est ce qu'ils font, place à l'imagination aussi, hein, parce que au final ces personnages, on est revenu à l'époque où ils font quelques pixels de haut, ils sont pas détaillés.
Oui. D'ailleurs, dans la scène bête, du radeau, il y a un truc très drôle. Il y a Machine à un moment qui dit Ah, tes cheveux ont poussé. Tu sais, ce genre, ça fait 2 semaines qu'ils sont sur le bateau, tes cheveux ont poussé. Et puis, dans la version originale, c'est pas repris dans la version française, c'est dommage. Dans la version japonaise, il dit oui, mais ils ont poussé 2 pixels. Ouais, c'est rigolo, c'est des petits clins d'œil sympas. Alors, malheureusement, qui sont perdus pendant la traduction, mais c'était peut-être pas si évident que ça à traduire. Et puis, j'ai l'impression que c'était un peu trop serious business. Mais c'est effectivement ça, t'as un côté très naïf dans lequel les personnages font pas grand-chose, mais ils ont une personnalité-fonction finalement relativement bien définie, qui servent à ça, et de temps en temps il y a une petite fulgurance où tu te rends compte que bah ouais, mais non, mais en fait, c'est peut-être pas si simple que ça, c'est pas juste l'intello de service, bah non, en fait, il a des vrais sentiments, il fait ci, il fait ça, et c'est pas si évident que ça, il se sacrifie pour le groupe. C'est intéressant d'avoir ça, c'est-à-dire que des personnages plus simples, mais pas non plus simplistes.
Bah en fait, c'est comme ils ont une certaine simplicité. En fait, c'est pas d'être faussement complexe. Et du coup, en fait, dès que tu vas les faire sortir un peu de leur carcan, bah, ils vont te surprendre. Et c'est aussi ça qui est agréable. Et tu vois aussi, moi je trouve que le côté être en pixel et petit et pas super détaillé fait que tu t'imagines encore beaucoup de tes personnages, à quoi ils peuvent ressembler. Parce que en vrai. Moi, je trouve que tes compagnons, à part peut-être celle qui a les cheveux bleus, ressemblent à n'importe quel autre PNJ.
Les PNJ se ressemblent un peu tous. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pixels pour les faire non plus.
C'est aussi un truc que moi j'aime bien dans ce genre de RPG, c'est se faire encore un peu une idée de à quoi ressemble ton personnage, comment il réagit, quelles sont ses expressions. Et je m'étais fait la remarque quand ils ont montré le remake de FF7, et quand j'ai vu ce cloud super détaillé, je fais mais en fait, le charme pour moi du set, c'était que les mecs n'étaient pas spécialement réalistes. Et du coup,
c'est du low poly, quoi.
C'est du low poly, tu pouvais encore te les imaginer. Et je me suis dit, mais s'ils refont Chrono Trigger au FF6 en mode full détaillé, est-ce que ce sera le même charme qu'à l'époque où j'y ai joué en 2D, tu vois?
Bah, c'est une vraie question intéressante. Hein, parce que je sais pas si évident que ça.
Je serais très curieux quand même de voir un FF6 en 3D complète. Quelle partie il prendrait, tu vois, mais ça, je me dirais, mais il y a peut-être un charme qui va se perdre d'imagination des personnages.
Coucou, Secret of Mana.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu ça. Hein.
D'ailleurs, en parlant de petits trucs, de petits détails, j'en avais parlé dans mon tweet, mais je peux en reparler ici parce que j'avais bien aimé. Quand t'es dans Phrasia, donc la troisième ville du jeu, tu vois à la fenêtre une espèce de couple qui est en train de s'embrasser. Et donc, quand tu décides de rentrer dans le bâtiment où ils sont et de monter à l'étage, donc où ils sont en train de s'embrasser, tu les vois qui se séparent juste au moment où tu rentres, chacun dans leur coin un petit peu gêné à te dire « Non, mais elle avait une poussière dans l'œil, je l'ai juste à l'enlever. »
Oui, c'est ça, il y a quelques petits détails très drôles.
C'est con, ça n'a aucune incidence, je trouve ça génial parce que ça rend le truc super vivant.
Mais le jeu, de manière générale, est super vivant, les villes sont super vivantes, c'est-à-dire les PNJ bougent, ils font des trucs, ce qui pour un jeu 16 bits, c'est pas complètement hallucinant, c'est pas non plus Breath of the Wild, il n'y a pas de cycle jour-nuit, il n'y a pas de choses comme ça. Mais je trouve que le jeu a un charme général, les villes... Tout ce que tu visites en fait a une âme qui est compliquée à expliquer, c'est vraiment. Et puis moi quand j'étais petit, c'est un petit peu. Enfin, c'est un jeu de mon enfance, donc c'est quelque chose que je. C'est un jeu que je connais très bien, qui m'a beaucoup marqué. Donc j'ai du mal à le revisiter sans le prisme nostalgique qui me fait dire c'était juste génial et tout ça. Mais je constate que finalement ce charme-là fonctionne encore aujourd'hui.
Il y a un truc très simple, enfin, comme tu vois, mais quand je cite mes RPG favoris, il y a FF6, il y a Chrono Trigger, c'est quand même des jeux de la même époque avec, je pense, plus ou moins des mêmes mécaniques de narration. Mais Legend of Tan, il y a des idées que je trouve vraiment intéressantes. Et je pense que le côté linéaire aide pas mal justement à créer ces petites scènes, ces petits moments de contemplation ou juste des petites fulgurances parce que, comme tu es guidé, tout ce qu'ils vont faire à un temps T, ça aura un sens et, comme tu vas jamais y revenir, et ben, ils n'ont pas à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire après, tu vois. Ils peuvent le faire à ce moment-là.
Finalement, tu peux avancer le scénario sans trop réfléchir, quoi. Guider le joueur complètement, parce que finalement, tu avances l'histoire, tu le prends par la main, tu dis, voilà, c'est la suite, c'est là.
C'est comme les 3 jours en boucle de Majora, où finalement, les mecs se sont dit, on a 3 jours, on va faire en sorte que les PNJ, à chacun des jours, ils fassent telles actions. Et c'est ça qui donnait un côté vivant.
C'est ça qui donnait le côté vivant et charmant du truc, enfin charmant. Compliqué pour Majora's Mask, mais c'est ça qui faisait effectivement le côté très vivant du truc.
Ce qui du coup se retrouve dans ce jeu dans une moindre mesure avec ce genre de petites scénettes quand tu te balades dans les villes, en fait, c'est qu'il y a des petits trucs qui se passent qui n'ont aucun rapport avec l'intrigue mais qui sont là
et qui sont très mignons. On va s'arrêter là parce qu'il commence à être drôlement tard. Je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est vrai que c'est un très bon jeu, donc c'est que c'est... Moi, c'est compliqué de m'arrêter de parler de ce jeu-là parce que je le trouve vraiment intéressant.
Et moi, j'ai bien aimé aussi le fait de découvrir un jeu que je ne connaissais pas, mais qui est vieux, mais d'avoir toute la surprise de la découverte en y jouant.
Ben écoute,
ça me manque des fois. Hein.
Comment dire ? Si tu as le courage, moi, je voulais préparer un petit article sur le jeu qui s'appelle Les Archives de Cranky, dans lequel on refait en fait une. J'avais refait la trilogie Prince of Persia sur GameCube, j'avais refait les trois Castlevania GBA. Et des choses comme ça, je voulais refaire la trilogie Gaia en me disant, ça c'est cool. Et en fait, Soul Blazer m'a cassé les couilles.
T'as saoulé ?
J'avais pas joué à l'époque et je trouve que le jeu a vraiment très mal vieilli, et donc j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. J'avais refini Legend of Time et j'avais juste commencé Terranigma. Je pense que je refinirai Legend of Time et que j'essaierai de recommencer Terranigma. Écoute, si t'arrives au bout d'Illusion of Time, tu me diras ce que tu penses de la fin. Je ne gâche pas la surprise parce que la fin est... très particulière.
Bah écoute, vu que c'est très facile de connecter sa manette Pro Switch à un émulateur pour le faire...
C'est tentant, hein.
C'est tentant, et de toute façon, tu m'as dit que quoi, c'était une dizaine d'heures, non ?
C'est peut-être un peu plus que ça. Là, t'as les deux premières statues exactes, t'as fini la mine. Mu, tu vas en chier.
Ouais.
Donc le palais zombie, hein, je me rappelle, très bonne traduction. Mu, tu vas en chier, et en fait, après, ça se rush pratiquement parce que tu as le mont chien dent. Oui, c'est un niveau qui s'appelle le mont chien dent, ça fait mal. C'est très très mal. surtout qu'en japonais, c'est le mont Cérès, en fait, c'est une référence à la mythologie romaine, et t'as effectivement un peu d'imagerie de mythologie gréco-romaine. Et là, non, en français, c'est le mont chien dent et va te niquer.
Voilà. Là, chien.
Tu as encore Vat, qui est un niveau très long et très compliqué, la pyramide est beaucoup plus simple, et après la tour de Babel, en fait, je pense que t'en as pour peut-être une quinzaine d'heures quand même au total. Sans le rusher particulièrement, hein, je veux dire.
J'essaie de prendre le temps de le faire, mais bon, c'est au jeu sur mes week-ends, je pense, parce que c'est quand même plus pratique.
Oui, mais ça se mange bien. Enfin, ce que je trouve, c'est que c'est un jeu qui se suit bien, finalement. Donc,
on verra si effectivement le palais zombie pose pas trop de problèmes. Mais moi, j'ai envie de le finir parce que j'ai envie de connaître la fin de l'histoire, en fait.
Ouais, et surtout que la fin de l'histoire, alors je vais rien dire parce que je veux vraiment pas te le gâcher, mais la fin de l'histoire est particulièrement bien foutue.
Bah, tu me donnes envie. Hein.
Et ça, je vais pas te dire que ça a tiré un petit larme. Moi, quand j'étais petit aussi, hein. Franchement,
il était aussi vieux que Galaxis.
C'est un peu ça. J'étais même plus jeune que Galaxis.
Coucou,
Galaxis. Moi, j'avais 10 ans et ça m'avait frappé la fin du jeu parce que c'est vraiment tout d'un coup, t'as une révélation qui est waouh, en fait, c'est ça. Et j'étais vraiment resté sur le cul, quoi. Et voilà, je vous dis rien. Parce que j'ai pas envie de gâcher le truc à Anti-X, mais je pense que c'est un jeu où la fin est extrêmement réussite aussi. Ce qui est très compliqué.
Les
jeux avec
une
bonne
chose.
Fin, c'est compliqué, surtout, je trouve, depuis quelques années, c'est compliqué les jeux avec une bonne fin. Mais là, t'as un très bon boss de fin, très compliqué, qui est assez pénible à battre, mais qui se fait. Et derrière, la fin est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Amène à d'autres réflexions vraiment intéressantes. Voilà, je vous gâche rien, je vais me taire. On va arrêter cette émission parce que j'ai parlé beaucoup trop et Antix aussi.
Ouais, mais vous avez donné
pas
envie,
plus que d'habitude.
Du coup, voilà. On va jouer avec Mecton.
Donc, si vous devez refaire la trilogie Gaia, je vous conseille de zapper Soul Blazer. Faites Illusion of Time, ça vaut vraiment le coup. Faites-vous Actraiser, il y a des thématiques similaires, il y a des choses. C'est beaucoup plus orienté action, mais il y a des thématiques similaires qui sont vraiment intéressantes à faire. Et Terranigma, je ne l'ai pas encore fini, mais c'est très bien parti. Le jeu a vraiment l'air d'être comme ça. Donc je le finirai, je ferai un petit article dessus, je pense. Et ce vendredi, sur Twitch, ce sera du Illusion of Time. Je vais me débrouiller pour arriver avant vendredi jusqu'au Palais Zombie, de sorte à pouvoir faire le Palais Zombie en direct. Vous allez me voir chier des bulles sur ce truc, parce que c'est atroce. Mais j'ai les strats qui vont bien pour battre les vampires dans le moins de temps possible, donc on devrait y arriver. Voilà.
Yay.
En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao tout le monde.
Ciao.
Bisous, bisous.